France Inter, le 18-20.
Y a-t-il une tentation radicale chez certains jeunes? On poursuit la réflexion. Ce soir, au téléphone sonne, à l'occasion de la sortie du livre co-dirigé par Anne Muxel et Olivier Galland, deux sociologues qui ont mené l'enquête pour le CNRS suite aux attentats de 2015. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous donc pour parler de la tentation radicale, enquête réalisée auprès de plusieurs milliers de lycéens. Objectif, comprendre pourquoi il y a eu des incidents dans certains établissements lors des minutes de silence après les attaques contre Charlie Hebdo et le Bataclan. Pourquoi certains jeunes sont restés indifférents, entre guillemets, à ce qui s'est passé. On verra à quel point la question de l'information est cruciale dans ce domaine, à quel point le complotisme fait des ravages. C'est d'ailleurs pour cela que France Inter a lancé il y a 3 ans l'opération Interclasse. La responsable de ce dispositif, Emmanuelle Davier, est d'ailleurs avec nous également pour nous expliquer quelles réponses nous avons essayé d'apporter à ce défi, ici à France Inter. Bonsoir Emmanuelle.
Bonsoir Claire.
Mais avant cela, place donc à vos questions sur cette enquête qui mérite d'être détaillée et expliquée, que ce soit sur la méthode employée ou les questions posées. Et puis on n'oublie pas l'actualité la plus récente, on le disait tout à l'heure, les occupations d'université qui se multiplient, les groupes identitaires qui refont surface parmi la jeunesse dans certaines villes, sans oublier les occupants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes qui pourraient bien être expulsés de manière imminente. La tentation radicale chez les jeunes, c'est notre sujet ce soir sur France Inter. Un numéro pour en parler, le 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, direction le standard de France Inter, Myriam nous appelle de Boissy-Saint-Léger. Bonsoir Myriam.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Et tous. Merci beaucoup. Dans le cadre de l'émission de ce soir, je souhaitais savoir si, dans le cadre de cette étude ou de cette enquête, je sais pas quel terme exact il faut employer, les deux chercheurs ont établi une corrélation entre le niveau social des parents pour les jeunes qui, a priori, ont été repérés comme en voie de radicalisation, compte tenu des réponses qu'ils ont apportées au questionnaire. Donc, si on a fait ensuite une corrélation entre le niveau social des parents et puis même éventuellement le lieu où habitaient ces jeunes, dans un parc social, en pavillon, une cité, une résidence. Voilà.
Merci.
Je voulais savoir si cette partie de... Il y a dans cette étude cet aspect qui a été envisagé.
Eh bien voilà, la question est posée, Olivier Galland.
Alors
vous,
oui,
vous pouvez dire quoi, Myriam ?
Bien sûr, on a l'information sur le niveau socio-culturel des parents. C'est une information essentielle dans toute enquête sociologique. Par contre, on n'a pas l'information précise sur le lieu d'habitation des lycéens qu'on a interrogés pour une raison simple, c'est que notre enquête devait garantir, c'était très important, l'anonymat des jeunes que l'on interrogeait. Donc la CNIL nous interdisait de demander le lieu précis d'habitation, sinon on aurait pu faire des recoupements et faire tomber l'anonymat. Voilà. Simplement, on sait que beaucoup de jeunes qu'on a interrogés l'ont été dans des US, dans des zones urbaines sensibles, dans des quartiers sensibles, dans des quartiers de la politique de la ville. Et effectivement, c'est un facteur qui joue également sur la radicalité. Alors que d'ailleurs, le niveau socio-économique des familles, en tous les cas pour ce qui concerne la radicalité religieuse, n'exerce pas d'effet.
Le niveau socio-économique des parents n'exerce pas d'effet. L'aspect discrimination qui peut concerner les jeunes joue un rôle, en revanche, si j'ai bien lu votre enquête.
Oui, je dirais le sentiment de discrimination, ce qui n'est pas forcément la même chose que la discrimination en tant que telle. Le sentiment peut varier par rapport à... Mais effectivement, le sentiment de discrimination joue. Alors, il joue pour la radicalité politique, Anne en parlera. Il joue également pour la radicalité religieuse, mais de manière relativement modérée. C'était assez surprenant, si vous voulez. Voilà.
Mais comme le critère, le critère religieux écrase un peu les autres dans votre étude, c'est vrai que c'est important de noter quand même les éléments qui peuvent faire la différence.
Et
ce sentiment de discrimination est important quand même, et notamment concernant les jeunes garçons qui se plaignent de contrôles de police incessants. C'est un élément important.
Ah oui, ça c'est certainement. Le rapport avec la police est certainement un facteur important. Parce qu'effectivement, on le sait dans ces quartiers, nous on l'avait vu dans une autre enquête d'ailleurs qu'on avait fait après les émeutes de 2005 à Aulnay-sous-Bois, il y a des tensions très très fortes effectivement entre ces jeunes et la police, et ça c'est certainement un facteur important qui avive, on va dire, qui peut aviver leur radicalité, leur sentiment d'être maltraité.
Vous voulez rajouter un petit mot,
juste pour répondre à Myriam, juste une précision, je crois que c'est important au début de cette émission de dire que nous n'avons pas fait une enquête sur les jeunes radicalisés. Hein, ce n'est pas une enquête sur la radicalisation.
C'est sur des milliers de lycéens de seconde.
Voilà, c'est une enquête qui porte sur des lycéens de classe de seconde à qui nous avons demandé quelles étaient leurs opinions, quel était éventuellement leur attrait pour des idées radicales en matière de politique, en matière de religion et en matière effectivement d'un certain nombre de valeurs ou de positions culturelles par exemple. Hein. Mais ce n'est pas, on n'a pas fait une étude sur des jeunes radicalisés, ni même en voie de radicalisation. Je crois que c'est important de le dire.
Mais vous avez quand même choisi un certain nombre de quartiers, on l'a dit tout à l'heure. C'est pas. Vous aviez d'ailleurs, pour comparer, je crois, un échantillon représentatif, par ailleurs, et vous avez pu comparer les deux, vous, en allant dans certains secteurs bien précis.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a construit notre échantillon, effectivement, en faisant quand même certaines hypothèses sur les lieux où des comportements radicaux pouvaient apparaître. Et on le sait, dans certaines régions de France, par exemple la région du Nord, certaines banlieues parisiennes, les quartiers nord de Marseille, ce sont des régions où, effectivement, des comportements radicaux se sont manifestés, à la fois religieux et plus ou moins politiques. Par exemple, on se rappelle que les émeutes de 2005 ont eu lieu dans ce type de quartier. Et dans chacune de ces régions, on a choisi effectivement plutôt des quartiers de politique de la ville où ce type de comportements peuvent se manifester. Mais évidemment, on ne prétend pas avoir cerné, si vous voulez, l'ensemble des phénomènes de radicalité qui peuvent se manifester dans notre pays. C'est une recherche exploratoire.
On repart au Standard de France Inter. Cette fois, Morgane est en ligne. Morgane, oui, qui nous appelle. Bonsoir, de Paris, c'est
bonsoir.
Ça ?
Bonsoir. Oui, tout à fait. Bonsoir, merci de prendre ma question. J'appelle, donc je suis enseignante auprès d'enfants en difficulté. Et moi, ce qui m'intéresse en effet, c'est de comprendre et puis de prévenir. Donc, cette enquête, personnellement, ne m'intéresse pas en elle-même. Je me demande même ce qu'elle peut apporter au niveau de la compréhension. Et j'aurais plutôt tendance à penser que... Donc ma question, c'est que peut apporter cette enquête pour la compréhension et la prévention. Je pense plutôt, moi, à des lectures comme celle de Toby Nathan, ethnopsychiatre, qui a publié récemment Les Amérantes, qui est un bijou d'écriture et qui donne justement à penser et qui est parti à l'écoute de jeunes, pour le coup, pas chier à l'acte, et qui se dit pas qu'il va lire dans le marc de café, est-ce qu'un tel, parce qu'il est jeune, parce qu'il est arabe, parce qu'il est pauvre, est-ce qu'il est pas... Parce que être tenté, c'est une chose, mais pas chier à l'acte, c'en est une autre. Hein. C'est bien que les jeunes, ils sont facilement tentés par plein de choses. Donc voilà ma question, j'espère que j'ai été claire, c'est un peu
mis,
et merci beaucoup en tout cas.
On va y répondre, merci Morgane, je précise juste que Toby Nathan est passé par cette émission, que ça a été une émission absolument formidable, que nous avons pu faire avec lui, et effectivement, il s'est intéressé à ceux qui passent à l'acte, et c'est donc tout à fait autre chose. Alors de là à dire qu'il n'est pas utile d'aller interroger les lycéens lambda, ça c'est une autre question. Qui veut répondre à Morgane ?
J'espère qu'en tout cas on pourra quand même apporter quelques éléments de réflexion, y compris donc aux enseignants dans les classes qui sont confrontés à des élèves qui expriment des opinions, qui expriment des idées. C'est un peu ces opinions et ces idées que nous avons essayé de recenser. Par exemple, sur la radicalité politique, un facteur est apparu assez important, qui est le niveau d'intégration scolaire, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un lien entre des jeunes qui ne se sentent pas bien intégrés, à l'école, qui n'ont pas de bons résultats, qui ne font plus confiance à l'école. Et donc, on voit bien que cette situation, par exemple, a une incidence sur des dispositions qu'ils pourraient développer envers une radicalité politique, plus ou moins radicale, du reste, qui ne suppose pas forcément un passage à l'acte, allant jusqu'à l'acceptation, la justification de la violence politique. Mais en tout cas, c'est un facteur qui est apparu important, avec aussi ce facteur du sentiment de discrimination. Donc l'enquête, elle permet justement de faire apparaître des effets de structure, de mettre en évidence des facteurs qui peuvent expliquer certains phénomènes que l'on peut observer.
Alors, Emmanuel Davier, Morgane, qui est enseignante, avait l'air de se demander à quoi cette enquête pouvait bien servir. Alors, avez beaucoup fréquenté les enseignants, qui les fréquentez toujours, est-ce que vous pensez que ça n'apporte pas grand-chose, qu'on savait déjà tout ce qu'il y a là-dedans ?
Je pense que cette enquête, puisque Morgane interroge son utilité, elle a le mérite de tirer la sonnette d'alarme, ce qui a déjà été fait il y a 15 ans par des sociologues et des enseignants qui ont un peu tiré en vain cette sonnette d'alarme sans être entendus. Et ces mêmes enseignants et ces mêmes sociologues n'ont pas été étonnés par ce qui s'est produit en 2015. Il faut savoir que les quartiers où s'est déroulée cette enquête sont effectivement les quartiers que l'on fréquente à travers Interclass, où règne une pauvreté sociale, économique, culturelle, langagière, à laquelle s'agrège une pauvreté informationnelle. C'est vrai que Anne Muxel et Olivier Galland parlent de radicalité informationnelle. Moi, je préfère parler de pauvreté informationnelle parce que j'y vois une forme de manipulation de ces enfants. De ces enfants qui sont dans une ignorance sur la manière dont on s'informe sur le monde. Et donc, toute une génération, et c'est à mon avis ce qu'il est vraiment nécessaire et urgent de comprendre, toute une génération est en train de construire son rapport au monde basé sur donc cette manipulation et ce mensonge que sont les fake news, puisque c'est de cette façon, exactement, cette façon commune qu'on a de les nommer maintenant.
Olivier Galland.
Oui, je crois malgré tout que notre enquête est utile, si j'en juge, si vous voulez, par la réaction de certains de nos collègues.
Qui sont ça fait peu, polémique, il faut dire les choses.
Voilà, hein. Voilà, et qui sont un peu dans le déni, si vous voulez. Alors, eux ont l'air de considérer que ce qu'on dit est faux. Donc, c'est pas si évident que ça, vous voyez. Et je crois que ne serait-ce que pour ça, pour sortir un peu du déni par rapport à certains phénomènes qui émergent dans la société, dans une partie de la jeunesse, je crois que rien que pour cela, cette enquête est importante et utile.
Alors peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est effectivement d'avoir aussi le point de vue des enseignants. En janvier 2015, on a reçu énormément de témoignages d'enseignants qui traduisent ce réel que vous décrivez à travers l'enquête. Et donc ce déni-là de la part des sociologues, il peut être quand même très gênant parce que c'est masqué ce qui apparaît dans de nombreux quartiers français.
Et puis il y a un autre point, si vous voulez, sur lequel notre enquête, je crois, apporte quelque chose. C'est le rôle, au-delà de l'aspect religieux, qui est important, c'est le rôle de la socialisation à la violence. C'est-à-dire, une des découvertes de notre enquête, c'est que le facteur d'acceptation de la violence, et pas de la violence religieuse, mais de la violence dans la vie sociale ordinaire, est un facteur très important qui est associé à l'acceptation de la violence religieuse. Et là, on a un clivage de genre très important. C'est-à-dire qu'on voit qu'effectivement, les garçons ont beaucoup plus tendance que les filles à accepter et parfois peut-être à propager ces comportements violents.
Alors, Olivier Galland, vous faisiez référence aux réactions qu'il a pu y avoir chez certains de vos collègues sociologues, des critiques qui ont été émises. Pour ne pas le citer, Patrick Simon de l'INED, dans les colonnes du Monde, vous accuse d'avoir essentialisé les musulmans, d'utiliser des critères discutables comme celui de l'absolutisme religieux. Alors on va en parler, mais je voudrais qu'on prenne l'appel de Marie qui a justement une question à ce sujet. Bonsoir Marie.
Bonsoir France Inter.
On vous écoute.
Et bonsoir France Inter et merci pour votre émission du vendredi. Alors, moi, j'ai lu dans Le Monde, il se trouve que j'ai lu dans Le Monde d'hier les articles concernant cet ouvrage, La Tentation Radicale, l'article d'entretien avec Anne Muxel et Olivier Galland, et aussi l'article de Patrick Simon, démographe et sociologue, qui critique la méthode, la démarche. Alors, moi, je ne suis pas sociologue, je ne me prononce pas, bien sûr, sur la thèse qui résulte de cette vaste enquête, ni sur la démarche, je n'ai pas assez d'éléments pour cela. Mais enfin, tout de même, je m'interroge sur certaines questions qui ont été posées à ces jeunes lycéens, et en particulier celle-ci. Je lis. En ce qui concerne la création du monde, considérez-vous que c'est la science ou la religion qui a plutôt raison ? Alors, je m'étonne vraiment que l'on puisse associer science et création. La notion de création n'est pas du tout scientifique. La science n'a rien à dire sur la religion, sur la création.
Alors, on va poser
autrement
la question.
Autrement dit, la réponse est dans la question.
Olivier Galland a très envie de vous répondre.
Oui, oui, oui. Non, mais vous savez, on a posé cette question parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de théories, notamment religieuses, qui nient le rôle de la science. Voilà, c'est tout. Et cette question, pour répondre d'ailleurs là-dessus à Patrick Simon, si vous voulez, on a pris grand soin de créer de poser des questions neutres religieusement, c'est-à-dire des questions qui pouvaient s'adresser à des jeunes de toutes opinions, de toutes croyances. Et c'est bien le cas de cette question. Et très probablement, on aurait posé cette question à des créationnistes protestants. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas en France. Mais on l'aurait posé à des créationnistes protestants aux États-Unis, par exemple. Eh bien, ils auraient répondu très probablement comme les musulmans absolutistes qu'on a interrogés dans notre enquête. Donc voilà, donc on n'a pas du tout cherché, bien loin de là, si vous voulez, à stigmatiser les musulmans ou à créer des questions qui seraient dirigées spécifiquement en leur direction. Pas du tout. Nos questions sont neutres, absolument neutres, sur le plan...
Et en tout cas, la conclusion à laquelle vous arrivez d'après votre échantillon et vos questions, c'est que les lycéens musulmans sont plus portés que les autres à adhérer à des idées absolutistes en matière religieuse et qu'ils justifient plus souvent la violence religieuse. C'est ça votre conclusion?
Oui, tout en nuançant ce constat par le fait qu'une majorité d'entre eux, malgré tout, n'adhèrent pas à ces idées. Si vous voulez, on peut
Les deux tiers.
Voilà, on peut utiliser une image pour...
Deux tiers n'adhèrent pas.
Mais un
ces
tiers,
idées.
C'est beaucoup quand
voilà.
même.
Oui, mais, voilà, mais
on peut utiliser une image pour expliquer de façon synthétique nos résultats concernant la radicalité religieuse. C'est l'image d'une pyramide, si vous voulez. En bas de la pyramide, il y a une base très large qui est celle, effectivement, de jeunes musulmans pour lesquels, et ça c'est quand même une surprise, je trouve, de notre enquête, pour lequel on constate un clivage culturel quand même assez fort avec les normes et les valeurs qui dominent aujourd'hui dans notre société et dans l'ensemble des sociétés européennes. Par exemple, pour donner quelques exemples, 60%, plus de 60% des musulmans considèrent que l'homosexualité, qu'on a interrogé, considèrent que l'homosexualité n'est pas une manière normale de vivre sa sexualité. Voyez. Et donc, bon, ce n'est qu'un exemple, mais ça montre que ces jeunes-là sont tout à fait en décalage avec les normes du libéralisme culturel qui prédomine dans notre société. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on a une strate moins large, qui sont celles, effectivement, des absolutistes, c'est-à-dire des jeunes qui ont une conception très anti-relativiste de la religion. Et ensuite, on a une pointe très étroite de ceux qui, à cette conception absolutiste, ajoute une tentation pour la violence. Voilà. Donc, voilà, il y a des strates de niveaux très, très différents.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
On repart au standard. David qui nous appelle de l'Isère, me semble-t-il. Bonsoir, David.
Bonsoir. Bonsoir, France Inter.
Bienvenue à vous.
Alors moi, j'ai pas vraiment une question, en fait. C'est pas une question, c'est plus, en fait, par rapport à ce que j'entends. Et je suis animateur socioculturel, en fait. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, les jeunes sont blasés. Ils sont blasés par les politiques. Ils sont blasés par tout plein de choses. Et que, en fait, ce qu'ils recherchent, ils vont peut-être essayer de le trouver dans les extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou que ce soit la radicalisation. Et en fait, le problème est que nous, on peut pas faire correctement notre travail, parce que au niveau des financements, on produit pas de résultats à l'instant T. On produit des résultats dans 10 ans. Ce qu'on est en train de faire maintenant avec les jeunes seront des choses qui vont être visibles dans 10 ans. Et ça, je pense que c'est très difficile à comprendre pour le gouvernement. Et le problème est que voilà, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont plus confiance en rien. Ils n'ont plus confiance. On leur parle d'écologie, c'est en train de se casser la gueule. On leur parle d'emploi, ils disent bah nous on va pas avoir d'emploi. Et quand on voit les politiques qui prennent à droite, à gauche, et tous les partis, hein, tout confondu, hein, qui prennent à droite, à gauche, et ben ils disent mais c'est pas normal. Alors je verrais pas pourquoi ça irait bien pour moi dans le futur. Et voilà, on se retrouve avec ça. Alors je généralise pas, hein. C'est certains jeunes qui voient ça.
Ok, quand même, David. David, merci beaucoup pour cet appel. Anne Muxel va réagir.
Effectivement, cette défiance, on la constate tout à fait dans l'enquête. Les jeunes sont très à distance de la politique institutionnelle, très méfiants, ont une très mauvaise image du personnel politique, ne croient plus dans les possibilités même de leur action politique. Et donc, ça ouvre de fait des brèches à des formes d'expression de leur exaspération, de leur mécontentement au travers et donc des brèches pour des idées ou des comportements radicaux, que ceci se manifeste au travers de votes et de votes protestataires ou que cela se manifeste par des formes de protestation dans l'espace public plus ou moins violentes. Ce qui nous a frappé dans l'étude, c'est qu'à 14-16 ans, c'est quand même encore des âges assez jeunes, on va dire. À 14-16 ans, il y a déjà l'installation de cette très forte défiance institutionnelle, défiance envers la politique, et en même temps, en germe, malgré tout, des dispositions à la protestation et peut-être à une radicalité de rupture qui concerne certes une minorité très 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 faible de jeunes, entre 1 et 2 sur 10, c'est quand même pas rien, qui seraient prêts à passer à des formes d'expression plus violentes dans le champ social ou politique. Donc ça confirme tout à fait ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire cette perte de repères, cette perte de sens par rapport à la possibilité de s'affilier, de s'arrimer à la politique institutionnelle, au système politique, et donc la recherche d'autres moyens, d'autres voies, y compris les plus radicales.
Alors David, dans l'Isère, il insistait beaucoup aussi sur le fait, Emmanuel Davier, que tout cela, ça prend du temps. C'est un travail de longue haleine pour essayer de remettre les choses à plat. Vous qui travaillez justement avec des très jeunes, à Interclasse, vous partagez le sentiment de David de ce point de vue-là ?
Alors, je partage complètement ce sentiment. C'est vrai que les élèves avec lesquels nous travaillons ont entre 14 et 18 ans. Et on a fait le choix du temps long pour travailler avec eux, c'est-à-dire que c'est sur toute une année scolaire. Et je suis totalement d'accord avec notre auditeur lorsqu'il dit que l'on travaille pour...
Dans 15 ans, quoi.
Voilà. À mon avis... Après les attentats de janvier 2015, les instances gouvernementales ont dit on en a pour 10, 20 ans. Trois ans après, et pour avoir parlé avec des experts de ces quartiers, avec des historiens, certains pensent qu'il y en a pour des dizaines d'années. Je voudrais quand même aussi revenir sur ce que dit David et puis Anne Muxel qui parlent de cette radicalité de rupture. Moi, je pense que ces jeunes, dans un monde qui est de plus en plus complexe à comprendre, où une information chasse l'autre, où l'individu a le sentiment d'être dépassé par des enjeux politiques, économiques, d'être une marionnette, le fait d'adhérer à cette radicalité, et notamment par les fake news, par les théories du complot, eh bien, c'est comme s'il reprenait la main et comme s'il avait le contrôle, puisque ça offre une lecture rassurante et simplificatrice du monde. Et donc, ça lui permet de trouver des boucs émissaires, de stigmatiser à son tour, et tout ça a une explication.
On va repartir au standard de France Inter pour tout à fait autre chose maintenant, puisqu'on a un ou une Camille qui nous appelle de Notre-Dame-des-Landes, visiblement. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Camille.
Salut.
Un mot générique, un nom générique.
Ben oui, bien sûr, parce que, il n'y a rien à signer, et oui, nous sommes tous des Camilles. Alors ce que j'expliquais à vos techniciens là tout de suite, c'est à travers le mot radicalité. Sur ces lieux de ZAD, la première fois qu'il est revenu à nos lèvres, c'était à la mort de Rémi Fraisse. Dès le lendemain, dès le dimanche. Parce que là, on sentait bien que on rentrait dans une société vraiment de plus en plus violente.
Vous contestez le fait de parler de radicalité, c'est ça, pour ceux qui occupent la ZAD ? Enfin, la ZAD, l'ex-ZAD ?
C'est un problème. C'est parce que quand vous parlez de radicalité, vous mettez tellement de choses à l'intérieur de ce mot. C'est vraiment un mot pour tout. Là, par exemple, je vois, par exemple, sur certains lieux, au niveau des manchettes de journaux, tous ces derniers mois, quand on appelle des jeunes de 20 ans, avec qui je vis, depuis des années, je les connais depuis des années maintenant, que je vis avec eux, et qu'on on trouve le moyen de les traiter de radicaux. Moi aussi, j'ai eu 20 ans. Moi aussi, je me rappelle que l'arme de la jeunesse, bien souvent, c'est la provocation. Et de là, en tirer, de faire les extrémistes verts et tout, je crois que ça suffit un petit peu. Et, mais effectivement, par contre, ce sont des gens, bien souvent, qui ont pris conscience dans le monde dans lequel ils sont issus. Et effectivement, ils en veulent pas. Ils en ont marre de ce mensonge. Ils veulent plus ce mensonge. Et ça, moi je vois, la ZAD, c'est un chantier permanent. Les gens, au départ, depuis le départ, on est là pour déjà se déconstruire de nos deux modes de fonctionnement, c'est-à-dire, on nous apprend à quoi dans ce monde, dans le vieux monde, comme on dit, à se ressembler, à se mesurer, à se comparer, c'est le monde de la compétition. Bah, tout ça, cette course est freinée au profit immédiat. Nous, aujourd'hui, on peut en mesurer l'étendue des dégâts, qu'ils soient sociaux ou environnementaux.
Et vous revendiquez ce que vous faites?
Mais ce qu'on revendique, madame, c'est que déjà, ce sont des gens qui sont exclus de ce monde. Et ici, ils retrouvent une place. Comme je vous dis, c'est quelques hectares de friches, ça coûtera toujours moins cher que construire des prisons. Ici, les gens se reconstruisent. Mais vraiment, pas en image, pas être à l'image d'eux. Ils sont, ils deviennent eux-mêmes. Et là, vous voyez là ce qui s'est passé pour la destruction de la route des chicanes. Et ben moi, quand j'ai vu cet élan, cette jeunesse en train de serrer les dents, démonter les cabanes, dont la main fâchée, et de voir à l'horizontalité, c'est-à-dire en réel collectif, sans grande assemblée, sans grande discussion, et de voir ce qu'ils ont bâti avec leurs mains en horizontalité, je répète, il y avait pas du tout de hiérarchie.
Ok, Camille.
Ils ont reconstruit ça 20 fois plus grand. On les arrêtera pas, parce que ce sont des gens qui sont déterminés, mais c'est pas déterminé à détruire le système.
Merci Camille, je vous remercie beaucoup et je vous arrête là parce que, alors vous savez, on a déjà fait un téléphone sonne avec vous il y a pas très très longtemps, hein, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On en fera peut-être une autre fois. Est-ce que les actions de ceux qui sont à Notre-Dame-des-Landes rentrent dans le cadre de ce qu'on appelle la radicalité? Olivier Galland, vous voyez bien,
oui,
que Camille, il revendique une action,
sûr,
et il y croit.
Bien sûr. Mais si vous voulez, ce qu'il faut dire surtout, je crois, c'est que pour nous, il n'y a pas de connotation morale dans le terme de radicalité. Il n'y a aucune connotation morale. On ne porte pas de jugement. Simplement, pour nous, la radicalité, c'est la manifestation d'une rupture. Et c'est bien le cas, je pense, de l'auditeur qui vient de s'exprimer. C'est la manifestation d'une rupture avec les normes, les valeurs et parfois les institutions qui sont en vigueur dans une société. Voilà, c'est tout. Donc c'est un constat, mais il n'y a aucune connotation morale.
On repart au standard. Pierre nous appelle de Nantes, pas très loin de Notre-Dame-des-Landes. L'Ouest est à l'écoute ce soir. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
On vous écoute.
Alors tout d'abord, je voulais vous remercier puisque je suis un fervent auditeur de Radio France. Et oui, il y a des jeunes de 18 ans qui écoutent Radio France.
Super, on est ravis.
Allô?
Oui, oui, on vous écoute, Pierre, allez-y, parce qu'il est déjà 53. Faut qu'on accélère un peu le tempo, là.
Je voulais apporter mon témoignage pour dire que j'ai constaté que l'immense majorité des personnes de mon âge sont apolitisées, n'ont pas d'avis politique. Et la plupart des personnes qui le sont, les rares personnes qui le sont, sont une tendance extrémiste. C'est-à-dire, et que ce soit à droite comme à gauche. Je pense qu'on a aujourd'hui une stigmatisation des étudiants comme des gauchistes, mais que c'est faux. Je pense qu'on sous-estime l'importance de l'extrême droite chez les jeunes. On voit réapparaître même des groupes monarchiques, ce qui peut paraître aberrant.
Alors merci beaucoup Pierre pour cette question. Anne Muxel.
Oui, la tentation radicale, en tout cas dans la jeunesse qui vote, elle existe. Hein, 4 jeunes sur 10, parmi les jeunes qui ont voté, ont porté leur voix sur des candidats de forces protestataires, à gauche ou à droite. Mais simplement, ce sont pas forcément les mêmes segments de la jeunesse, hein, qui se portent soit à l'extrême gauche, soit à l'extrême droite. Et donc, on voit bien là que, voilà, les les jeunes quand ils ont à s'exprimer, en tout cas au travers du vote, eh bien trouvent des candidats, ça rime à des protestations, hein, qui ne relèvent pas forcément voilà, ni des mêmes programmes, ni des mêmes valeurs, ni des mêmes intentions.
Alors, il nous reste à peu près 2 minutes 30. Je voudrais qu'on fasse un dernier tour de table. Peut-être que vous nous disiez, a priori, à partir de ce livre que vous avez écrit, de cette enquête que vous avez réalisée, quelles sont pour vous les leçons à en tirer, les objectifs essentiels aujourd'hui, s'il y a des leçons à en tirer. Puis on finira avec Emmanuel Davier.
Moi, Olivier Galland. Il y a une leçon simple. Et je crois que ça, d'ailleurs, ça fait écho à votre travail.
Interclasse. Hein.
Interclasse. Il y a une leçon simple, à mon avis, c'est qu'il faut écouter les jeunes et dialoguer avec eux de façon argumentée. Parce qu'au fond, ce qui s'est passé au moment de la minute de silence était fascinant. Les professeurs, au fond, beaucoup d'enseignants, ont été surpris des réactions de leurs élèves. Ce qui semble montrer qu'au fond, ils ne les connaissaient pas très bien. Et en France, quand même, on a une culture dans le système scolaire, on a une culture extrêmement verticale, peu participative. Et donc voilà, si on veut former des citoyens, il faut les écouter, il faut les faire parler, il faut débattre, il faut argumenter.
Emmanuel Davier.
C'est exactement tout l'enjeu d'Interclasse que vous avez parfaitement résumé. Et c'est vrai que...
Interclasse, on redit en deux mots. Hein,
c'est un dispositif d'éducation aux médias voulu par Laurence Bloch, la directrice de France Inter, suite aux attentats de janvier 2015, qui consiste pour des groupes de journalistes et producteurs de notre station à accompagner pendant une année des collégiens et lycéens qui grandissent dans les quartiers les plus pauvres du territoire français, enfin en Île-de-France cette année.
Voilà, c'est une belle opération. C'est vous qui vous occupez de ce dispositif. Merci beaucoup, Emmanuel Davier. Le mot de la fin sera pour vous, Anne Muxel, vous qui êtes une spécialiste de la jeunesse. Vous avez été surprise déjà, pour commencer, par tout ce que vous avez pu recueillir comme données dans cette enquête. Et qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça?
Surprise, non, on n'a pas vraiment été surpris, mais on a en tout cas confirmé quand même l'existence d'une tentation radicale, hein, qui se fait entendre dans la jeunesse d'aujourd'hui, dans différents segments de la jeunesse, de façon différente et se portant voilà, sur des thématiques différentes. Mais je crois qu'il faut que les pouvoirs publics, je crois que l'école a un rôle très important à jouer, je crois que les médias, et ça c'est vraiment, mais vous le faites apparemment très bien, ont un rôle à jouer, je crois, pour amener les jeunes au débat. Au débat et au débat d'idées. Je crois qu'il y a une grande demande de sens et une grande demande de débat,
voilà,
d'idées.
Pour essayer de recoller toutes ces fractures. Ça s'appelle La Tentation Radicale. C'est aux Presses Universitaires de France. Merci à tous les deux d'être venus. Merci à vous, Emmanuel Davier. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Irène Menahem, Lucille, Valérie à la réalisation, Juliette Gou à la programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert à la technique, Philippe Duplot, Stéphane Beaujat, Théo Gomard. Merci à nos amis standardistes.